Vous écoutez les dossiers du FBI. Le pacte mortel. Deuxième partie.
En 1991, les enquêteurs de la région de Chicago surveillaient deux voitures qui, selon eux, serviraient au bandit barbu lors de son prochain hold-up quand ils virent un homme monter à bord de l'un des véhicules. L'agent spécial Hank Schmidt croyait qu'il s'agissait de leur homme.
Il correspondait physiquement à l'homme qu'on avait surnommé le bandit barbu.
L'homme avait été amené là par quelqu'un qui conduisait une camionnette. Quand il partit, la camionnette le suivit. Les enquêteurs furent incapables d'identifier les deux conducteurs. Ils devaient se montrer prudents. Si le bandit barbu et son complice s'apercevaient qu'ils étaient suivis, ils pourraient faire feu. Mais les techniciens du FBI avaient installé un dispositif de localisation sur la voiture, ce qui permettait aux agents de la suivre à distance. L'homme gara la voiture volée à proximité d'une banque de banlieue. Quand il entendit la nouvelle, l'agent spécial et superviseur Bill Keefe comprit qu'ils avaient enfin touché leur cible.
Au moment où le véhicule est arrivé près de la banque, notre niveau d'adrénaline a monté en flèche, car nous savions qu'on allait réussir.
La voiture était vraisemblablement le premier véhicule que prendrait le voleur le lendemain. Les agents croyaient que les deux suspects iraient ensuite chercher la seconde voiture à Rolling Meadows. Il ne s'était pas trompé. Ce second véhicule était également muni du dispositif de localisation. Les agents de surveillance suivirent cette autre voiture volée jusqu'à une quincaillerie située à environ 30 km de la banque où les deux complices la laissèrent. Maintenant que les deux suspects étaient à bord de la camionnette, les agents ne pouvaient plus compter sur les dispositifs de localisation et ils devaient les prendre en filature. Ils suivirent la camionnette jusqu'à Hanover Park, où ils les virent se garer devant une maison. Maintenant, l'agent Dave Childrey pourrait identifier les occupants de cette maison.
On disposait d'une plaque d'immatriculation et des descriptions sommaires d'un homme et d'une femme. Les vérifications d'usage nous ont permis d'apprendre que la camionnette était enregistrée au nom de Jeffrey et Jill Erickson.
Le FBI et la police travaillèrent toute la nuit pour en apprendre le plus possible.
On a effectué beaucoup de recherches, appelé des services de police pour tenter de voir qui étaient ces gens.
Bill Keefe, agent et superviseur.
On voulait savoir s'ils avaient un casier judiciaire, mais on n'en a trouvé aucun. Au cours de ces recherches, on a toutefois obtenu des informations sur Jeffrey Erickson. Il avait été policier.
En 1986, Jeffrey Erickson était patrouilleur dans la banlieue de Chicago. Il s'était illustré par ses tirs de précision, mais ne s'intéressait guère à l'aspect routinier de son travail, comme d'arrêter des automobilistes ou d'écrire des rapports. On était sur le point de le licencier quand il avait donné sa démission. Les dossiers indiquaient que Jeffrey Erickson avait ouvert une librairie au début 1991, soit au moment où le bandit avait marqué un temps d'arrêt. Sa femme, Jill, une étudiante en chimie, et lui semblaient mener une double vie. Ils faisaient partie de la classe moyenne grâce à l'argent volé aux banques. Le suspect ne semblait pas menaçant au premier abord, mais l'agent spécial Schmidt savait que c'était tout le contraire.
Cet individu savait comment nous réagirions. Il pouvait tout planifier d'avance. Et comme il avait été formé en maniement d'armes, il saurait parfaitement en faire usage. C'était une plus grosse menace pour nous.
Les enquêteurs décidèrent d'arrêter les Erickson le soir même, plutôt que le lendemain, lors du vol de banque, pour éviter que des employés ou des clients ne soient blessés.
La quantité de preuves qu'on avait en main nous permettait de l'arrêter, même s'il n'était pas près d'une banque.
Bill Keefe, agent et superviseur.
L'approche la plus sécuritaire consistait à l'arrêter quand il serait sur le point de monter à bord de la voiture volée.
Pendant que des équipes de surveillance étaient postées devant la maison des suspects, une unité SWAT prit position près de la voiture, dans l'aire de stationnement de la quincaillerie. Voici le chef de police, John Cozel.
L'unité SWAT connaissait le passé du suspect et savait qu'il pourrait tirer le premier. Les agents devaient prendre ce risque en considération.
Dès le matin, il se tint prêt à passer à l'action.
Au milieu de l'avant-midi, les unités de surveillance nous ont informé que la camionnette avait quitté la résidence avec au moins deux personnes à son bord.
Agent spécial Hank Schmidt.
Elle se dirigeait vers la voiture volée. L'équipe de surveillance nous a ensuite informé qu'Erickson était descendu de la camionnette dans l'aire de stationnement voisine.
Le FBI avait installé un dispositif qui éteignait le moteur de la voiture à distance.
On l'a vu arriver par le coin du stationnement et se diriger vers le véhicule, y monter, puis faire démarrer le moteur.
Erickson fut distrait par les ratés du moteur.
Okay, let's go in.
L'unité SWAT passa à l'action.
On n'a qu'une fraction de seconde pour décider de faire feu ou pas. La plupart des policiers préfèrent ne pas avoir à tirer sur un individu. Personne ne veut enlever une vie. On avait le sentiment qu'on avait la situation bien en main.
Après avoir tenté d'ouvrir son sac à deux reprises, Erickson finit par obtempérer.
S'il s'était emparé de son arme, la situation aurait été tout autre. Pendant qu'on le conduisait vers une prison fédérale, je lui ai demandé « Comme vous avez été policier, vous saviez qu'en faisant un tel geste, on vous tirerait dessus. » Il m'a répondu « Je me suis dit que vous me tireriez une balle dans la tête et que ce serait vite fini. »
Dans la voiture, les agents fouillèrent le sac d'Erickson où ils trouvèrent les outils de travail du bandit barbu. Des armes chargées, un récepteur, des gants, une barbe et une perruque.
Son kit de braqueur de banque nous a aidés dans cette affaire.
Agent Dave Childrey.
Sans ces preuves, on n'aurait arrêté qu'un simple voleur de voiture.
Pendant que Jeffrey Erickson était en garde à vue, il restait encore la moitié du travail à faire. Dans l'aire de stationnement voisine, l'unité SWAT s'approcha de la camionnette. Jill Erickson se trouvait vraisemblablement à bord. Les agents peinèrent à la suivre. Ils pourchassèrent la jeune femme dans 11 juridictions différentes, atteignant des vitesses de 180 km à l'heure. Le barrage routier qu'on dressa s'avéra inutile.
Elle a tiré à plusieurs reprises depuis sa camionnette.
Agent spécial Hank Schmidt.
Soit sur les agents, sa poursuite, soit sur les autres automobilistes. Nous avions très peur qu'elle blesse un simple citoyen.
Les agents tirèrent quelques projectiles sur les pneus arrière de la camionnette. Mais sa conductrice refusait d'abandonner la partie. En 1991, une présumée braqueuse de banque avait entraîné la police et le FBI à sa poursuite à travers la banlieue de Chicago. Sa camionnette se retrouva bientôt dans un secteur sans issue. Les policiers dressèrent un autre barrage routier. Quand la camionnette fonça droit sur eux, ils durent faire feu. Ils virent du mouvement à l'intérieur. Puis, un agent du FBI s'approcha prudemment. La conductrice avait été touchée d'un projectile qu'elle s'était elle-même tiré. C'était bien Jill Erickson. Plus tard dans la soirée, à l'hôpital, elle mourut. L'agent spécial Hank Schmidt nous raconte.
Je crois qu'ils avaient peut-être fait le pacte de ne jamais se faire arrêter. Ce jour-là, elle a tenu promesse. Et lui, pour une raison qu'on ignore, ne l'a pas fait.
Dans la camionnette, on a trouvé des cartouches utilisées, du sang, des fibres ainsi que d'autres munitions et armes.
Agent Dave Childrey.
Il y avait une carabine et plusieurs centaines de cartouches. Ce quartier est devenu un cauchemar pour les techniciens. Parce que Jill avait envoyé des projectiles partout. Dans les maisons, les voitures, dans la rue.
Le FBI obtint un mandat pour fouiller la maison des Erickson.
On a trouvé de l'argent liquide. Mais ce qui m'a impressionné le plus, c'était la quantité d'armes dans la maison. Si on avait procédé à l'arrestation à cet endroit, cela se serait transformé en partie de chasse. Il y avait autant d'armes dans cette maison qu'on retrouve de bibelots, de tableaux ou des objets de décoration ailleurs.
Parmi les armes trouvées, on tomba sur le fusil d'assaut semi-automatique de calibre 223 qui avait servi lors de l'attaque de l'agent Kevin Maher. Le chef de police Kozel comprit alors qu'une fusillade aurait pu être mortelle autant pour l'agent que pour le suspect.
Ses armes étaient aussi dangereuses que celles des forces policières. Ses armes d'épaule utilisaient des munitions capables de transpercer un gilet pare-balles.
Une autre découverte dans la maison montrait bien dans quel état d'esprit vivaient les deux suspects.
Une des choses qu'on a trouvées plutôt ironique, c'est que la télévision était allumée et que le magnétoscope fonctionnait. Il y avait une copie de Bonnie and Clyde à l'intérieur et la scène où la cassette était arrêtée était celle où Bonnie et Clyde sont blessés et vont mourir. Il était évident que c'était un film qu'ils regardaient avant d'aller braquer une banque.
Même si un voleur était mort et que l'autre était en détention provisoire, la violence ne cesserait pas pour autant. Le procès de Jeffrey Erickson s'ouvrit le 13 juillet 1992. Les preuves accumulées contre lui étaient convaincantes.
Selon toutes les conversations que nous avions avec le bureau du procureur, le procès allait bien. Ils étaient très encouragés et croyaient avoir assez de preuves pour le faire condamner.
Après l'ajournement du 20 juillet 1992, deux gardes firent monter Erickson et d'autres prisonniers à bord d'un ascenseur. Erickson avait encore sur lui les vêtements civils qu'il portait en cours. Les prisonniers se dirigeaient vers le fourgon qui les conduirait au centre correctionnel. Mais quand l'ascenseur arriva au niveau du garage, Erickson était parvenu à se défaire de ses menottes. Il tua le prévôt Bill Frakes d'une balle dans la nuque. Pris au piège, Frakes n'avait pas eu le temps de sortir son arme. Alors que le tireur prenait la fuite vers la rue, le gendarme de la cour et ancien enquêteur Harry Belwomini l'affronta. Erickson tira à la poitrine de l'ancien policier. Mais avant de mourir, Belwomini eut le temps de tirer 4 projectiles, blessant mortellement Erickson. Le tireur n'était qu'à une dizaine de mètres d'une rue passante quand il poussa son dernier soupir.
On a fait appel à toutes ses ressources pour avoir raison de cet individu.
John Kozel, chef de police.
Il avait été capturé et comparaissait en cours. On aurait pu croire que l'affaire était close. Mais malheureusement, la seule personne qui est parvenue à arrêter cet individu a été Harry Belwomini, ce très courageux policier qui, en mourant, a tué Jeff Erickson.
Bill Frakes venait tout juste de se marier et il n'avait commencé sa carrière que 9 mois plus tôt. Harry Belwomini, lui, était policier depuis 31 ans. Deux de ses enfants sont maintenant agents au service de police de Chicago. Ils poursuivent l'œuvre de leur père.
Vous venez d'écouter les dossiers du FBI. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les dossiers du FBI est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures. Adapté de la série documentaire audiovisuelle FBI Files. produit par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Louis Maggiotto et il a été réalisé par Mila Marvison et David O'Donnell. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Kosiewicz, Mandy Lebourg et Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Olivier Citroux.